RCI présente au cœur du pays Guadeloupe. Avec le soutien de la région Guadeloupe, la tradition radiophonique rencontre l'innovation du podcast.
Il fait particulièrement beau en cette matinée à Saint-Claude. Cette fraîcheur nous indique que nous sommes déjà sur les hauteurs de la Basse-Terre et la Soufrière est dégagée. Elle nous offre un magnifique spectacle. Et ce n'est peut-être pas un hasard, car c'est d'elle dont on parlera dans cet épisode. Bienvenue au cœur du pays Guadeloupe. Car oui, la vieille dame a causé bien des frayeurs aux habitants de la commune et des alentours en 1976.
8 juillet 76 à 8h54 du matin, il y a eu 20 minutes d'obscurité à Saint-Claude. Pourquoi ? Parce que la soufrière a explosé et elle a envoyé dans l'atmosphère beaucoup de poussière volcanique. Moi, je m'appelle Christian, antenneur à Bazac. Je suis ingénieur électronicien de base et je suis venu ici en 76, je suis venu comme VAT, donc il fallait faire un service militaire à l'époque. Et donc, appelé par Michel Feuillard, qui voulait faire fonctionner les réseaux de surveillance du volcan.
Christian Tenora Bazac est donc arrivé le 12 décembre 76 à ce poste et reparti en 78. Il a ensuite été directeur technique de l'Observatoire volcanologique à partir de 82, puis directeur adjoint jusqu'en 2016. Au départ, il a été appelé pour participer à la surveillance du volcan qui était déjà en éruption. Et donc, vous êtes arrivé ici, finalement, après l'éruption ?
Ah non, en cours d'éruption. Les éruptions ont duré jusqu'au 1er mars 1977. Dernière éruption a eu lieu le 1er mars 1977. Et il y a eu une éruption mémorable que j'ai vécue le 29 janvier 1977. On a eu une grosse, gigantesque, une des dernières grosses éruptions phréatiques qui a arrosé tout le sud, toute la région, y compris la zone où nous sommes ici, où il y a eu une pluie de petits gravillons sur le marché de central de Saint-Claude et sur cette zone-là, des petits gravillons qui sont tombés à 7h du soir.
Avant l'explosion du 8 juillet 1976, l'activité sismique de la Soufrière s'était nettement intensifiée.
Ça a explosé parce que les fissures de la Soufrière étaient bouchées et donc la pression a augmenté sous ces fissures et sous ces bouchons de fissures et c'est les bouchons qui sont partis dans le ciel. Et ça a provoqué donc des projections de poussière volcanique, donc ce qu'on appelle des cendres volcaniques, mais froides, et des projections de gravillons ou de blocs de roches ou de blocs de pierre. On a des blocs qui ont atteint 1 mètre de diamètre, voire 2 mètres, qui sont passés au-dessus de la citerne, donc à plus de 1600 mètres à vol d'oiseau. Donc ça pouvait être dangereux. Mais fort heureusement, ces blocs n'ont pas atteint les zones habitées. Voilà, donc la première éruption phréatique, c'était le 8 juillet 76 à 9h du matin, globalement. Mais ça s'est vu venir. Mais on ne savait pas que ce jour-là, ça allait se produire à cette heure-là.
Justement, puisque la Soufrière, elle est observée depuis 1950, et ce n'était pas possible de prévoir qu'il allait avoir ces poussières.
Non, alors ce qui était faisable, ce qui était visible, c'était le fait que la Soufrière se mettait sous tension. Et l'observatoire a détecté l'anomalie à la Soufrière depuis 1975, juillet 1975, c'est-à-dire un an avant. On a des enregistrements de l'observatoire depuis les années 51 et 56, et on avait une moyenne d'environ 150 tremblements de terre chaque année. Or, en juillet 75, un an avant, on s'est retrouvé avec une vingtaine de tremblements de terre pour des tranches de 10 jours, ce qui faisait beaucoup de tremblements de terre par rapport à la moyenne annuelle de 150. Et en novembre 1975, ça s'est confirmé avec 200 tremblements de terre par tranche de 10 jours, donc 600 par mois en moyenne, alors qu'on était à 150 par an. Donc on voyait bien ça se mettait en place progressivement. Et ce qui fait que lorsque ça arrivait en juillet 76, ça a surpris bien sûr tout le monde, parce qu'on ne savait pas que ça allait se produire ce jour-là, à cette heure-là, mais on savait qu'il se passait quelque chose d'anormal.
Malgré cela, le nuage noir qui a envahi Saint-Claude ce 8 juillet en a surpris plus d'un.
RCI. Ça a surpris tout le monde. Ben, on avait bien les tremblements de terre revêtus en voilà. Donc tout le monde était quand même un peu inquiet. Mais personne ne savait ce qui allait se passer ultérieurement. René Saminadin, l'idée pour les amis. Je suis vieux directeur d'école à la retraite depuis 20 ans. Je suis un grand militant de la vie associative depuis plus de 50 ans. Je m'investis énormément dans la vie de la cité à travers toutes les associations.
Et donc, en 1976, vous étiez enseignant, c'est ça?
Oui, en 1976, j'étais enseignant, oui. Mais nous étions en vacances à l'époque. C'était en juillet, nous étions en vacances. Et heureusement, parce que les écoles étaient fermées. Parce que si les écoles étaient, les enfants étaient dans l'école, ça aurait été la catastrophe. Mais la veille, moi, j'étais rentré à la clinique parce que je m'étais pété la cheville et j'ai vécu le lendemain en direct puisque la clinique où j'étais était vraiment sous les pentes de la Soufrière. Une journée comme aujourd'hui ensoleillée où on voyait bien toute la région, cette belle région de Basse-Terre, et brusquement il a fait nuit noire. Donc là la panique s'est installée dans Saint-Claude.
Un jour dont se rappelle également Hugues Cange, qui n'avait pourtant que 8 ans au moment des faits.
On était sous une galerie chez nos parents, donc je m'amusais à imiter des prêtres. Alors j'ai fait sur la terrasse un hôtel avec des bancs avec mes frères et sœurs. Et à un moment, je me souviens toujours de la dernière phrase, je disais « Allez en paix mes enfants ». Alors tout d'un coup, le ciel est devenu tout sombre, mais on ne comprenait pas puisqu'on a 8 ans. Et c'est comme notre mère avait une mabonne, si on peut dire ainsi, c'est elle qui a commencé à crier « La Sophie a répété, la Sophie a répété !» Et c'est comme ça qu'elle nous a pris sous ses bras, elle nous a fait traverser la route et on est arrivé au carrefour de Bellefond, 4 chemins. Et c'est ainsi qu'on est monté derrière une camionnette et on s'est trouvé jusqu'à Vieux Habitants. Nos parents ne savaient pas où on était, nous étions un petit peu éparpillés un petit peu partout. Et donc c'est ainsi qu'on a subi les évacuations de la Soufrière.
Les évacuations de la Soufrière sont restées gravées dans les mémoires. Comme en témoigne René Saminadin.
Donc tout le monde est parti, laissant les portes ouvertes, laissant les animaux en divagation. Et on entendait les voitures, mais on ne les voyait même pas à travers cette obscurité. Et nous sommes partis de Saint-Claude et arrivés à Basse-Terre, le soleil, les gens qui nous regardent passaient comme des extraterrestres. Ils se demandaient ce qui se passait. Et les voitures avec la couche de poussière. Et on filait, sur mon tapis, certains par la route sur le vent, certains vers Trois-Rivières, par là, Goubert. Ma foi, ce qui s'est passé à Saint-Claude, c'est que les gens qui n'avaient pas de voiture ont embarqué dans n'importe quelle voiture. La voiture qui passait sautait dedans, c'était une camionnette, on sautait dedans. Il y avait des petites camionnettes qui avaient 30 personnes dedans. Il y avait des camions qui avaient au moins 50 personnes. Ils étaient là. Les gens ouvraient les portes des voitures et s'installaient dans les voitures. C'était ça, bon. Et les gens partaient, ne savaient même pas où est-ce qu'ils allaient. Et les familles étaient dispersées parce que les parents n'étaient pas là, les enfants étaient parfois dans les maisons. Donc les voisins ont peut-être pris les enfants, les voisins, ils sont partis. Et les parents qui travaillaient, parce que les adultes travaillaient, ne savaient même pas où était leur famille. Et justement, RCI a fait un très beau travail à cette époque, puisque c'est par la radio qu'on a su. La radio disait tel cherche ses parents, il est à tel endroit. Donc à partir de la radio RCI, on a pu retrouver les familles disséminées, tant au nord, tant vers le nord de la Guadeloupe que en Grande-Terre.
Mais avant d'en arriver aux retrouvailles, partir était la priorité de tous, ou presque. Christian Ténor à Bazac.
Cette première journée de frayeur du 8 juillet 76 a provoqué une évacuation spontanée. Il y a eu 30 000 personnes qui sont parties toutes seules, sans aucun ordre d'évacuation de qui que ce soit, ni du préfet, ni de l'observatoire, ni des scientifiques. Donc, des gens qui sont partis sur les routes vers le nord de la zone. Donc, à l'époque, les routes, ce n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Que ce soit du côté Côte-sous-le-Vent, du côté Capesterre, c'était des ponts à voie unique. La route qui reliait Basse-Terre à Saint-Claude, l'ancienne route nationale 3, était à voie unique, avait des ponts à voie unique. Donc, ce n'est pas les routes que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait aucune route à trois voies, en tout cas dans la région. Donc, et puis, il fallait passer par le bourg de Trois-Rivières, par les bourgs des communes. Donc, voilà. Donc, c'était les 30 000 personnes sont parties sur ces routes-là, comme ça, de manière plus ou moins, on va dire, sauvage, mais de manière très organisée et très disciplinée. Il n'y a pas eu d'incident grave, il n'y a pas eu de problème particulier. Les gens sont partis effrayés, c'était l'entente générale, il fallait partir, point, voilà. Bon, quelques-uns sont restés, hein, bien sûr, mais l'essentiel de la population de la zone proche de Basse-Terre-Saint-Claude est parti.
René Saminadin, qui lui aussi est parti, s'en souvient bien.
De Saint-Claude à Pointe-à-Pitre, personne n'a doublé personne. On était en file indienne et pourtant, il fallait pas traverser toutes les communes de la Guadeloupe. C'était long. Les routes n'étaient pas les mêmes, les ponts n'étaient pas les mêmes et bon, c'était une circulation particulière. Moi, je suis parti vers Pointe-à-Pitre où j'avais une sœur qui, son mari était gendarme à Petit-Pirou, à Bim. Et je suis allé directement là et ils m'ont accueilli. Je suis arrivé avec ma couche d'essence de la voiture. Tous les gendarmes se sont rapprochés de la voiture, m'ont demandé ce qui s'était passé.
Vous êtes arrivé en famille?
Oui, je suis arrivé avec ma famille là. À partir de là, maintenant, il fallait organiser sa vie.
Ce n'est qu'au mois d'août que l'évacuation officielle a été ordonnée par la préfecture.
RCI. Et le 15 juillet 1976, le préfet, avec les scientifiques, ont déclenché l'évacuation officielle. Et ça, ils ont évacué 52 000 personnes, à peu près 53 000 personnes, vers le nord de la Guadeloupe. Évacuation organisée. Depuis juillet 1976, ça s'amplifiait, ça allait de plus en plus, ça allait de manière exponentielle vers un paroxysme. On sentait que ça pouvait mal se terminer, sans savoir ce que ça pouvait faire, parce qu'en 1976, on n'avait pas d'éléments scientifiques pour comprendre la souffrière. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Donc la sécurité a été, de l'administration, du préfet, donc a été de jouer l'évacuation. Et c'était normal.
9 milliers de Saint-Claudiens ont donc quitté leur domicile et des milliers de Bastériens des communes des alentours également. À l'image de René Saminadin et Hugues Cange.
Les gens se sont logés un petit peu partout, mais à partir du 15 août, lorsqu'il y a eu l'évacuation, comme Christian en parlait, officielle, alors c'est les écoles qui ont reçu les gens.
Et quand vous êtes parti donc en juillet, vous n'êtes jamais revenu avant décembre?
Oui. Alors c'était un petit peu comme pendant la guerre, il y avait les laissés-passer. Donc il y avait à Bainbridge, au lycée de Bainbridge, il y avait le QG de la préfecture. On allait demander une autorisation pour les livrer et à Capesterre, à Sainte-Marie-Capesterre, il y avait un barrage et on devait monter là, sans laisser passer, on pouvait venir prendre les choses. Et bon, donc il n'y avait personne, donc c'était dans la cendre qu'on marchait et on venait de temps à autre, pas souvent. Voilà.
Venir prendre des choses parce que le 8 juillet, vous êtes parti sans rien prendre, sans faire une valise.
Absolument, on est parti comme on était, hein, sans rien. Les portes sont restées ouvertes. Mais c'est ça, donc chacun est parti un petit peu. C'est la panique, quoi.
On est resté. De vieux habitants Marigot, le premier jour, on a dormi dans l'école en bois. On s'est retrouvé à Pointe-Noire, de Pointe-Noire, on s'est retrouvé à Sainte-Anne, de Sainte-Anne, on s'est retrouvé. Ma maman étant cadre milieu hospitalier, on s'est retrouvé au CHU. Et de CHU, on s'est retrouvé à Fuyol. Et notre dernière résidence, c'était le Mont Idole, dans une maison que M. Daroussi avait et qui a été louée exceptionnellement. On a laissé notre chien, notre chien Jupiter à Saint-Claude et nous, on était sur Pointe-à-Pitre. C'est triste et en même temps. Je sais pas, on était dépaysés, c'est tout. Dépaysés. Mais c'était, pour moi, c'était une expérience enrichissante aussi, bien entendu.
RCI, au cœur du pays Guadeloupe.
Comment se faisait l'accueil des gens de la Grande Terre, des personnes de la Basse-Terre qui arrivaient?
Bon, je dis que les municipalités ont bien accueilli les gens. Oui, ils ont beaucoup aidé les gens. Bon, c'est la préfecture qui avait un fonds spécial pour ça. Ce n'est pas les communes qui ont dépensé. Mais, bon, maintenant la population de l'autre côté, bon, eux n'étaient pas trop contents de voir cet afflux de population. Je ne dis pas qu'on nous a refusé. Mais enfin, ça gênait quand même. On appelait magma parce que l'odeur du magma, la soufrière, parce qu'il faut dire aussi qu'à travers tout ça, il y avait une odeur. Comment ça s'appelle ce soufre, le soufre?
La
H2S. Il y avait une odeur. Ouais, l'odeur. Parce que l'odeur, quand même, c'était ça. Lorsque ça a pété en 76, d'abord cette odeur de pourri. Mm-hmm. poignée à la gorge. Bon, les yeux ça brûlait, il y a tout ça. Donc les gens entendaient, ils disaient, ça sent magma. On parlait de quelqu'un de la passée, ça sent magma.
Bon, c'est pour ça que vous le preniez mal quand on disait ça.
Ben, peut-être qu'il y a des gens qui le prenaient mal. Mais bon, vous savez, ça tout dépend de son intelligence et de sa culture. Hein. L'autre, on était très accueillants. Ah oui, il y a des liaisons qui se sont connues. Il y a des gens qui se sont mariés là-bas, etc. Il y en a des gens qui ne sont pas revenus. Il y a tout ça. La société s'est modifiée à partir de ça.
Ce n'est qu'à partir de novembre que quelques habitants de Basse-Terre ont regagné leur commune. Ceux de Saint-Claude ont été les derniers à retourner dans leur quartier en décembre et ceux de Papayer, vivant sur le flanc de la montagne, ont été les tout derniers. Il faut dire que le pic du phénomène a eu lieu le 24 août avec plus de 1200 séismes en 24 heures. Ce n'est qu'après que la crise sismique a commencé à décroître. Mais cela ne marquait pas la fin des éruptions, comme le précise Christian Anténor Abazac, ancien directeur adjoint de l'Observatoire volcanologique.
Du 8 juillet 76 jusqu'à 1er mars 77, il y a eu 26 éruptions phréatiques. C'était des éruptions régulières.
Ces éruptions, elles n'ont fait que certains dégâts matériels?
Oui, des dégâts matériels, mais qui ont été circoncis au niveau du dôme du volcan. Le phénomène le plus grave qu'on a eu au niveau des dégâts, c'est le fameux gros caillou, gros bloc de lave qui est passé au-dessus de la citerne. Il me semble me rappeler que c'était le 16 ou le 17 août, je ne sais plus à quelle date. Et vous avez aussi cette pluie de gravillon qui est tombée sur Saint-Claude le 29 janvier 1977. Et sinon, ça n'a pas fait de dégâts particuliers dans les zones habitées. Les dégâts sont restés, les cailloux qui ont pu provoquer des dégâts et des victimes sont restés dans la montagne et autour du dôme. C'est une chance qu'on a eue. Et ça, personne ne pouvait prévoir à l'avance qu'on ne puisse pas avoir un caillou de même de 50 cm de diamètre ou 2 mètres de diamètre qui tombe sur Saint-Claude. Donc en 76, on a eu, disons, globalement de la chance que ce soit terminé comme ça aujourd'hui et que ce ne soit pas terminé comme la montagne Pionnière en 1902. Mais c'est juste un coup de peau. Il faut bien comprendre que c'est vraiment un coup de peau.
On pourrait tout de même rattacher des centaines de morts à cet épisode en raison du stress provoqué chez les Guadeloupéens impactés par la situation engendrée par les éruptions de la Soufrière cette année-là.
RCI, au cœur du pays Guadeloupe.
Vous nous parlez de vos prises de parole, des conférences que vous avez données. C'est important aujourd'hui de rappeler cette histoire.
Je pense que c'est important parce que, nul ne sait ce qui se passe. Bon, pour l'instant, là, on est bien surveillé. C'est calme quand même. Bon, mais on ne sait pas, un volcan. Bon, le volcan ne parle pas, il ne dit pas ce qu'il va faire. Donc, on est là, on vit sur notre volcan.
Un volcan qui fait plus que jamais partie du patrimoine de la ville de Saint-Claude. Véritable attraction touristique, ce volcan actif et explosif est toujours sous haute surveillance. La Soufrière a vu passer 180 000 visiteurs en 2023, soit 15 000 par mois. Et ce malgré la fermeture des sentiers en janvier à cause des dégâts causés par la tempête Fiona. Celle qui est surnommée la Vieille Dame fait partie d'un ensemble volcanique qui s'est formé il y a 200 000 ans. Très convoité du haut de ses plus de 1400 mètres d'altitude, les plus courageux et chanceux peuvent admirer une vue à couper le souffle quand ils en font l'ascension. C'est aussi de la Soufrière que viennent les sources froides de Rivière des Pères, du Galion ou encore des chutes du Carbet. Et il en va de même pour certaines sources chaudes comme les bains jaunes qu'on retrouve à ses pieds ou encore les bains chauds du Matoubin. Alors qu'attendez-vous pour découvrir ou redécouvrir ces richesses offertes par la nature de Saint-Claude?
RCI, au cœur du pays Guadeloupe. Avec le soutien de la région Guadeloupe, la tradition radiophonique rencontre l'innovation du podcast.